Ah, comment ça va? Enfin?
Ça va et vous? Je voulais savoir si vous avez réfléchi à quand?
Merci.
Sur le voyage.
Bah, je sais pas, ou bien. Non, c'est bien, ou en janvier ou en mars? On va juste un petit texto quand c'est le. Qu'est-ce que vous avez croisé les dates? Et après, on va. On peut commencer là? Eléo? C'est possible? On peut commencer? Voilà, Botay Bokertov. Excusez-nous du retard. Chanukah Sameach. Et il y a des béniers d'oiseaux, des béniers qui sont offerts, les Ilou Nishmat. Rappelle-nous le Ilou Nishmat. D'accord, c'est écrit dessus. Chazak Ouvarouf. Voilà. Josette Aziza Cohen Batrachet. Chazak Ouvarouf. Tisko le mitzvot. Nous allons commencer tout de suite avec un sujet de la paracha. Nous sommes à la fin de Parashat, juste avant Parashat Miketz, donc à la fin de Parashat Vayeshev, il y a un événement qui se passe dans la prison dans laquelle est enfermé Yosef. Dans cette prison, il y a deux hommes qui font des rêves. Et ces deux hommes sont appelés Sar Hamashkim et Sar Haofim, le maître échanson et le maître panetier, serviteur de sa majesté, le pharaon. Et ces deux personnages sont punis de prison. Ils se retrouvent avec Yosef, qui est le responsable de la prison. Et Yosef les voit très perturbés, très anxieux. Déjà, on apprend de là une mida tova, un trait de caractère positif. C'est que lorsqu'on voit quelqu'un qui a, un peu les boules, on voit sur son visage qu'il est anxieux. C'est une bonne chose d'aller le voir et lui demander si on peut l'aider, s'il y a un problème. Ça montre de l'empathie, une sensibilité à l'autre, et ça peut amener la Géoula. Et là, Yosef, toute sa délivrance, il la doit à sa mida, celle d'être gentil, responsable et de vouloir aider ces personnes qui sont clairement en difficulté et en souffrance. Ils ont fait des rêves et ils n'arrivent pas à trouver de solution à ce rêve. Que font-ils? Yosef leur répond et leur résout leur rêve. Maintenant, à la fin, lorsque l'un des deux, le Sar Hamashkim, sait qu'il va reprendre sa place, il va être restitué à son poste de Sar Hamashkim, Yosef en profite pour lui demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui demande? Alors, il lui demande tout simplement la chose suivante. Il lui dit, je suis dans la page, en fait, 234, verset 14 du chapitre 40. « Ki im zecharatani itecha, ka ashe yitav lach » Donc verset 14. Si seulement tu pouvais me garder en mémoire quand il te fera du bien, usez, je t'en prie, de bienveillance envers moi, et me mentionner à Pharaon, et tu me feras sortir de ce bâtiment. Qu'est-ce qui est écrit ici? Donc Yosef sollicite le maître échanson et lui dit, s'il te plaît, j'ai besoin de ton service. Pourquoi j'ai besoin de ton service? Parce que tout simplement, je suis en prison pour rien du tout. J'ai vraiment rien fait. Je suis là pour rien. Est-ce que tu peux intercéder chez Pharaon? Il se dit, c'est même pas par hasard que Dieu a amené dans la prison ces deux personnages. C'est pas par hasard que je leur ai expliqué les rêves. Ce n'est pas par hasard que ces gens-là sont là maintenant. 10 ans sont passés de prison quand même. 10 ans de prison. Pourquoi 10 ans de prison? Parce qu'il a dit du mal de ses 10 frères. 1 an par frère. Donc c'est bien payé, c'est chèrement payé. Et donc 10 ans pour les 10 frères. Donc il se dit, les 10 ans sont passés, c'est le moment où je dois sortir. C'est vrai. Il a raison, Yosef. Il ne se trompe pas. Il se dit, c'est pas par hasard qu'il est là. Il vient chez Pharaon. Pharaon, c'est sûr qu'il va l'interroger. Il va pouvoir lui parler. Je suis vraiment en phase de sortie de crise. à ce moment-là, il fait une faute. Il commet une faute. Il dit ces deux phrases, ces deux mots. Il dit Ki im zechartani itecha. Donc, dans le verset 14, si seulement tu pouvais me garder en mémoire, vehiz kartani, et donc me mentionner à Pharaon. Zocher, zechira, c'est souvenir, rappeler. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend 2 ans de plus pour chaque mot. Zechartani, zechartani, 2 mots. C'est 2 mots en trop, c'est 2 mots de 2 ans de prison de plus. Ça veut dire qu'en fait, dans le ciel, il y avait déjà un décret. Yosef peut sortir de prison. Il a purgé sa peine, 10 ans pour les 10 frères, sur lesquels il a dit la médisance. Et à ce moment-là, il fait la faute. Il demande au Sar Hamashkim, et il lui demande d'intercéder. Et là, il se prend encore 2 ans. Voilà ce qui est écrit, je n'invente rien. Rashi le rapporte, vous pouvez regarder avec moi Rashi. C'est le dernier Rashi, alors c'est facile à se rappeler. C'est le dernier Rashi de Parashat Vayeshev. Vous ne pouvez pas ne pas le trouver. C'est écrit Mipnei shetalabo Yosef lezocho uzkak liot asur shtei shanim. Parce que Yosef lui a demandé, et il a, si on peut dire, à quelque part compté sur lui. Il a compté sur lui en lui demandant d'intervenir. Ça lui a coûté 2 ans. Et quel est le verset qui est rapporté? C'est un verset dans Tehilim, chapitre 40. Ashrei ha-gever asher sam Hashem yiftacho, dit Rashi, c'est un Rashi dans un verset dans Tehilim, chapitre 40. Heureux l'homme qui a mis en Dieu sa confiance, velo fana el rehavim, et qui n'a pas eu confiance, il ne s'est pas tourné vers les rehavim. Qu'est-ce que c'est les rehavim? Ce sont les Égyptiens, dit Rashi. Velo batach ha-mitzraim ha-kruim rahav. Il amène une preuve que le mot rehavim désigne les Égyptiens qui sont appelés rehavim. Ça, c'est un verset dans Yeshaya, si vous voulez voir la preuve que Rehavim, c'est les Égyptiens. J'explique. Heureux l'homme qui met en Dieu sa confiance et qui ne s'est pas tourné vers les Rehavim. Rehavim, les Égyptiens. Alors, le Midrash, cité dans Rashi, il n'est pas tout à fait rapporté à 100%, comme souvent c'est le cas. Donc, je vais chercher dans la source de Rashi. Où Rashi a pris ça? Il a pris dans le Midrash. J'ai vraiment le Midrash ici. C'est Yosef. Heureux l'homme qui a mis en Hachem sa confiance, c'est Yosef. Velo yada lo panal rehavim. Il ne s'est pas tourné vers les Égyptiens. Eh bien, justement, il s'est tourné vers les Égyptiens puisqu'il a demandé l'aide d'un Égyptien, en l'occurrence le Sar Hamashkim, pour le sortir de prison. Donc ici, il y a quelque chose de très très bizarre que posent tous les Mefarshim, c'est qu'on est dans un même verset en train de louer Yosef, de lui dire bravo, Ashrei. Ashrei, c'est tu es heureux, tu peux être heureux, tu peux être fier, bravo, c'est un 120 sur 20, c'est une... Donc Ashrei, bravo. Et en même temps, on lui dit, mais attention, hein, l'ophanal rehavim, tu n'aurais pas dû te tourner vers les... Donc, il montre un manque de confiance, puisqu'il pose, il demande à ces gens-là d'intervenir. Alors ici, beaucoup de questions se posent, mais on va en poser 2 principales, pour ne pas s'éparpiller. 2 questions se posent. La première, contradiction entre le début du verset selon le Midrash qui parle de Yosef, qui dit de Yosef qu'il est quelqu'un qui a confiance en Dieu et qui dans la même phrase dit que finalement il n'a pas eu confiance, donc il y a un problème. Et il y a un deuxième problème, c'est quel est le problème de demander de l'aide au Sar Hamashkim? Est-ce qu'il ne peut pas tout simplement lui dire 2 mots, ce qu'on appelle la Hishtadlut? Hishtadlut, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des démarches tout à fait dans l'ordre des lois de la nature, c'est-à-dire en utilisant les lois normales, naturelles, et ne s'appuyant pas seulement sur une aide métaphysique. Ça veut dire qu'il y a dans notre Torah une obligation, selon le Chovot HaLevavot, une obligation d'après le Chovot HaLevavot, de faire la Hishtadlut. Une obligation. Donc lorsque Yosef il fait ce qu'il fait, il fait cette démarche, il l'accomplit, une obligation. Je pense même qu'il a fait les Shem Yichud avant. Les Shem Yichud, Kudsha, Vetrou, Charité. Je vais accomplir la mitzvah de Hishtadlut. Je vais demander une démarche tout à fait nécessaire, obligatoire, qui s'appelle la Hishtadlut. Alors, la réponse, la Hishtadlut, ça veut dire l'effort, les démarches naturelles pour arriver à votre but. Il y a ce qu'on appelle Hishtadlut, donc l'effort physique, l'effort dans des démarches administratives, des démarches, voilà, et Bitachon, confiance en Dieu, ce sont les 2 mots, Hishtadlut, Bitachon. Donc d'un côté, on encense Yosef, qu'il a beaucoup de confiance en Dieu, et puis juste après, on nous dit le contraire. Alors ici, je voudrais que vous appreniez quelque chose de très important. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire se trouve dans la Gemara Makot. Vous aimez les histoires, n'est-ce pas? Alors écoutez bien une belle histoire. Un jour, il y a eu un homme qui s'appelait Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, un des grands parmi les Tanaïm. Et je me demande même si ce n'est pas le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, puisque Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Il est enterré à côté de lui à la fameuse Méron. Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar, je crois que c'est de lui qu'on parle. Je ne suis pas certain, mais je crois que c'est de lui qu'on parle. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Eh bien, il est décédé, et on trouve que sa fille, lorsqu'elle était à côté du corps de son père, elle a eu un moment de grande tension, de pression, parce qu'elle a vu un ver sortir de l'oreille de son père. Son père était mort, et elle a vu un ver sortir de l'oreille de son père, et elle a eu très peur. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est mon père, je sais que c'est un tzaddik, c'est un kadosh, c'est pas normal qu'un ver puisse toucher... On sait très bien que les tzadikim, leur corps reste entier, qu'aucun ver ne touche même à leur corps une fois qu'il est mort. Il n'y a pas de... Bref, elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors, elle a eu un rêve. Et dans ce rêve, on lui a dit... Enfin, c'est son père qui lui est apparu en rêve. Et il lui a répondu. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai eu ce ver? Parce que j'ai entendu une fois quelqu'un mépriser des Tamidei Chachamim. Et je n'ai pas réagi comme il fallait. J'aurais dû répondre vertement, leur dire ce qu'on appelle une mecha'a, c'est-à-dire dire je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Et je ne l'ai pas fait. Et c'est pour cela que j'ai eu ce ver qui sortait de mon oreille. Alors, vient le Rivan. Rivan, c'est un des descendants de Rashi, qui a des grands commentateurs, qui dit « Alma, bechaya vayaragil ledagdek bekach ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon avait pris sur lui une grande mitzvah. Il avait été particulièrement vigilant toute sa vie de ne pas jamais entendre des paroles négatives sur les Tamidei Chachamim. Dès qu'il y avait quelqu'un qui commençait un soupçon de remise en question, la moindre problème, tout de suite, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon réagissait. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon ne laissait rien passer. Mais une fois dans sa vie, il a laissé passer. Et parce qu'il a laissé passer une fois dans sa vie, parce qu'il était justement quelqu'un d'extrêmement vigilant, il a été vertement, il a eu une sanction, celle d'avoir ce ver dans son oreille. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en 2002. En 2002, ça a été donc mis dans la presse. C'est pas parce que c'est dans la presse que c'est vrai, mais c'est effectivement vrai dans ce cas-là. C'est vérifiable, les descendants sont encore vivants. En 2002, il y a eu une personne, précisément c'était en 2003, je vais être précis, c'est en 2003 que ça s'est passé cette histoire. Donc c'était il y a 15 ans. En 2003, il y a une femme, non c'était un homme je crois, enfin peu importe, un homme ou une femme, qui ont eu un rêve. Et dans ce rêve, ils voyaient leur ancêtre, leur père ou leur grand-père, leur montrer... un écriteau. Dans cet écriteau, il y avait écrit 20 égale 200. Quelque chose comme ça. Alors, franchement, et il lui montrait ça en insistant. Il me faisait comme ça avec son doigt, en insistant sur la pancarte, en disant « Regarde bien ». Bon, alors franchement, la personne qui a eu ce rêve était plus que perturbée. Déjà, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est mon père, c'est mon grand-père, je ne sais pas si c'était le père ou le grand-père. Je vois pas ce qu'il a, il a l'air soucieux, et il me montre quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre, c'est un rébus, c'est un truc bizarre, j'arrive pas à comprendre. Bon, je vous la fais courte, ils ont fait une grande recherche, une analyse, un truc. C'est important de savoir que ce rêve, c'était la nuit de l'Akba Omer. Ce rêve a eu lieu la nuit de l'Akba Omer. Et lorsque ils se sont réveillés, elle a essayé de comprendre, et elle s'est rendue compte d'une chose. C'est que les chiffres qui étaient donnés, c'était une équivalence entre le shekel moderne, qui a aujourd'hui lieu en Israël, et la lire. Vous savez, avant en Israël, il y avait les lirotes. Et elle a vu que c'était quelque chose qui correspondait à l'époque entre un shekel et une lire. Alors elle a approfondi encore et encore cette personne, parce que les rêves se sont répétés, vous avez compris, ils n'ont pas laissé tranquille. Et finalement, écoutez bien ce qui s'est passé, l'explication de ce rêve. C'est que la personne dont on parlait dans le rêve, c'était une personne qui est morte lors de l'explosion de la ligne 2 qui faisait le lien, la connexion entre le lien entre la vieille ville de Jérusalem et le quartier de Har Nof. Et il y a eu un kamikaze palestinien qui s'est donné la mort. C'était en août 2002. C'était une période d'intifada très grave, vous savez tous, vous vous rappelez, un moment de grande tension, l'intifada avec des explosions dans les bus, très fréquemment. C'était, je ne sais pas quand c'était. En tout cas, c'était en août. Et cet homme se trouvait parmi les victimes. D'accord ? Et ce personnage, après réflexion, c'était un homme qui était un homme très religieux, très, très, très pratiquant. Il était un moré. Il donnait des cours à des jeunes enfants dans un cheder, dans une école primaire. Et il donnait des cours, il était très apprécié. Et il se trouve qu'un jour, il organisait une sortie de l'Akba Omer, comme ça s'organise très souvent partout dans toutes les écoles. Et à cette sortie, il a réclamé, évidemment, le prix de la sortie, c'est-à-dire le frais du bus, etc., à un enfant. Et cet enfant lui a dit, je l'ai déjà payé, mes parents ont déjà payé, c'est déjà payé. Et lui, il a insisté, il dit non, j'ai pas reçu, t'as pas payé. Et finalement, l'enfant a payé, et me disant toujours, mais je dois pas payer, on a déjà payé. Et lui disait, non, vous avez payé, vous avez pas payé. Donc finalement, il a payé, et il s'avère que cet écrito, c'était la somme de la sortie de l'Akba Omer qui avait eu lieu 30 ans plus tôt, 30 ans avant, puisque c'était encore dans les lirotes. Lirotes, donc lire, c'est, je sais pas exactement quand ça, je passais du lire au shekel, mais c'était encore avant. Et il lui montrait en disant, paye, retrouve l'enfant, et rembourse. Vous avez compris combien c'est une sortie de l'Akba Omer dans une école en Israël, avec, je ne sais pas combien ça représentait, vous imaginez, ce n'était pas des grosses sommes, d'accord. Donc ils ont dit, il lui disait, rembourse. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont remboursé, ils ont cherché l'enfant qui était devenu un homme avec des enfants lui-même, peut-être même des petits-enfants, et qui lui-même ne se rappelait même plus qu'il y avait une sortie de l'Akba Omer et qu'il n'y avait pas eu ce problème. On lui a payé ce qu'il fallait. Et en fait, après renseignement pris, c'est-à-dire que cet homme était particulièrement vigilant, très très vigilant, sur le fait, sur la honnêteté et la propreté d'argent. Il ne voulait jamais ni devoir à quelqu'un, ni prendre le moindre centime à qui que ce soit, était particulièrement vigilant et honnête. Et donc, les Chachamim m'ont expliqué que lorsqu'un homme a cette exigence-là, Hachem peut lui donner l'autorisation de revenir sur Terre pour rembourser les petites centimes, les petits qu'il n'a pas encore payé, parce que sinon il ne peut pas rentrer dans l'Olam Haba. Un, parce qu'il a des dettes, même si c'est une dette qui est ridicule, qui est petite. Et deuxièmement, parce qu'en plus, il avait toujours dans sa vie été particulièrement vigilant sur ce truc, on lui donne la possibilité de rembourser. Voilà, Rabotai, ce que cette histoire, pour vous donner un principe très important, c'est que lorsque quelqu'un fait attention à une mitzvah, bizarrement, quelque part, on pourrait considérer que ça se retourne contre lui, parce que quelque part, on lui dit, bon, on est plus exigeant avec toi parce que tu es habitué. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il a pris sur lui de bien la faire. Eh bien, Hachem lui donne la possibilité de la faire jusqu'au bout. Il y a un autre exemple, c'est celui qui va faire la tefila avec le minyan tous les matins. Alors, c'est une très bonne chose de faire le minyan avec tous les matins, sauf que c'est écrit dans la Gemara, dans Brachot, que celui qui fait la tefila tous les matins, si un jour il ne vient pas, Akadosh Baruch Hu, il demande « Eh, où il est ?» Il le cherche. Et il le cherche. Alors, soit vous venez jamais. Non. Alors, celui qui a l'habitude de venir tous les matins, c'est très, très grande mala. C'est pas seulement une mala. C'est normalement le devoir de chacun d'entre nous. Mais bon, il peut y avoir des gens qui ont des cas de force majeure. Mais si un jour, voilà, un homme n'est pas venu, là, par exemple, la semaine prochaine, il y a un jour où je ne pourrais pas être là. Alors, je pose la question, qu'est-ce qu'Hachem va dire? Alors, la réponse est la suivante. On vérifie. S'il est allé pour faire du business qui n'était possible de faire un autre moment, etc., où il n'y avait pas de cas de force majeure, eh bien, Hachem le note, c'est un rouge, Tu n'as pas fait Zadara. Si, effectivement, il a une bonne excuse, il est allé faire une mitzvah, ce qu'on appelle Dvar Mitzvah, il est allé chercher ses parents à l'aéroport, eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, celui-là, il est dispensé. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas que c'est une dispense, c'est qu'en fait, c'est une mitzvah, il est assouk va mitzvah, pas tourner mitzvah, il est occupé à une mitzvah, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Donc, vous avez compris, chacun, lorsqu'on met notre niveau de religion à un certain niveau, on doit respecter cet engagement, essayer de le tenir. Pourquoi je vous raconte tout cela aujourd'hui? Parce que c'est le cas de Yosef. En fait, Yosef, c'est la personnage qui est l'idéal, c'est-à-dire la personne qui a réussi le mieux cette dimension du bitachon. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la première fois où il a fait, même pas une erreur, hein, c'est pas, je vous ai compris tout de suite, on va analyser en quoi c'est une erreur. Hein. Il a fait une ishtadlut, c'est-à-dire une démarche qui n'était pas à sa place. C'est la seule fois. C'est-à-dire que lorsqu'il a été vendu par ses frères, on peut penser qu'il était mais vraiment déprimé. Non, pas du tout. Il a vu que dans la caravane qui l'accompagnait, il a vu qu'il y avait des parfums. Alors que les Arabes, déjà à l'époque, ne portaient déjà que du pétrole, déplaçaient du pétrole. C'était déjà très ancien, l'histoire du pétrole et les Arabes. Et donc, ça sentait mauvais. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Que dans, sur sa route, ce sont des Ishmaélim, des musulmans, qui portent, qui déplaçaient du parfum. Alors je vous pose une question, est-ce que vous pensez vraiment que Yosef, il avait ça dans la tête de penser s'il y avait du parfum ou du pétrole, alors qu'il venait d'être vendu par ses frères qui n'avaient aucune pitié lorsqu'il avait jeté dans un puits profond avec des serpents, des scorpions, il est part en esclavage dans un pays qu'il ne connaît pas, c'est un tzadi qui va devoir se frotter à une civilisation donc il n'adhère pas du tout. Bref, vous pensez qu'il a la tête à ça? Pierre Botta, écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. On a tous dans la vie des fois des galères. Ça peut nous arriver d'avoir des galères, ça fait partie de la vie. Mais n'oubliez jamais ce que je vous dis. C'est que dans les galères, il va y avoir à chacun d'entre nous un petit sourire d'Hachem. Ce petit sourire, il va être discret. Il faudra le percevoir. Pourquoi? Parce que c'est un signe qu'Hachem nous envoie en disant, tu vois, t'as une galère, mais ne crois pas que je suis absent. Je t'ai pas laissé tomber. Je suis là avec toi, mais t'es une galère. Mais regarde un peu, je te fais un sourire pour que tu saches que je suis toujours avec toi. Yosef, lorsqu'il est parti dans cet esclavage, il n'est pas parti désespéré parce que quelque part, il a perçu le sourire de Dieu et il s'est dit, Dieu est avec moi par le parfum. Alors franchement, le parfum, dans cette condition, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va changer sa vie. Si, il s'est rendu compte que Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Et ça, ça ne l'a pas lâché et ça ne l'a pas lâché jusqu'au bout. Parce qu'encore une fois, mettez-vous à sa place. Vous êtes un jeune de 17 ans, vous êtes beau. Vous êtes dans un pays étranger vendu par vos frères. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a une femme qui se propose à vous, une femme qui vous promet tous les honneurs parce qu'elle est bien placée, haut placée. Elle vous dit, écoutez, venez avec moi, viens avec moi. Tu es perdu, tu es lâché, tu es abandonné. Je te récupère. En plus, je vois dans les astrologies, je suis un grand astrologue, je vois dans les étoiles qu'on doit avoir des affaires entre nous. Et d'ailleurs, il va se marier dans cette paracha avec sa fille, adoptive, pas sa fille, mais sa fille adoptive. Donc, elle voit bien qu'il y a un lien. Elle a raison de dire qu'il y a un lien entre, c'est son beau-père finalement. Celui qui l'a jeté en prison, d'accord, ça a bien commencé. Bref, et donc, sa future belle-mère le sollicite, et lui, il refuse, et après, il résiste. Et pour le remercier de tout cela, qu'est-ce que Hachem lui fait? On lui envoie en prison 10 ans. Je dis, attendez, j'ai résisté, c'était très dur, et je me retrouve 10 ans de prison, avec en plus une accusation terrible. On dit de moi que j'étais un violeur, que j'ai voulu abuser d'elle. Enfin, vous imaginez, j'ai le mauvais nom et je suis en prison. Tout ça parce que j'ai su résister. Moi, je dis, Dieu, écoute, franchement, j'en peux plus. Tu m'as excité, tu m'as énervé et je me rebelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que fait Yosef? Il dit, Elohim avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, avec moi. Partout, il parle de Dieu, mais il est où, Dieu? On le voit pas, là. On est en prison. Et Yosef sait qu'à un moment, il va sortir de cette prison et au fond de lui, il sait que cette prison, c'est pas pour rien qu'il y est, c'est pour expier la faute d'avoir fait de la médisance sur ses frères. Donc, il sait que tout cela, c'est une hashgacha. Et à aucun moment, il ne doute de la finalité de son histoire. Il sait que ses rêves vont se réaliser et qu'il va devenir roi et que les frères vont se prosterner devant lui. Et c'est ce qui va se passer. Vous imaginez? C'est quand même une certaine force, une grande force de caractère chez Yosef. Et lorsqu'il est en Égypte, il arrive devant Pharaon à résister à l'envie de dire « Jouez, c'est moi l'intelligent, je connais tout ». Il dit non, c'est Dieu qui... C'est-à-dire qu'il a une sorte de force et un bitachon énorme. Alors qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là de bitachon, il y a des exigences qui ne sont pas comme les nôtres. Quelle exigence il y a? Alors, la solution à ce problème est écrite par le Chazon Ish. Le Chazon Ish a écrit un livre qui s'appelle Emouna et Bitachon. Et il pose la question que nous venons de poser et il donne la réponse. Et les mots qu'il dit, évidemment, le Chazon Ish, chaque mot est réfléchi. Il dit la chose suivante. Omnam bihiyot shelefi tchunat ha-rehavim en betivo lizkor letiv. Puisque la nature des Rehavim, pourquoi on les appelait Rehavim, les Égyptiens? C'est des Égyptiens ou des Rehavim? C'est quoi des Rehavim? Rehavim, ce sont des gens ingrats. Des gens qui en font, qui n'ont absolument pas la moindre reconnaissance. Donc comment tu peux parler à un Égyptien et lui dire, tu sais, lorsque tu seras devant Pharaon, tu penseras à moi, je t'ai donné la solution du rêve, etc. Il est sorti de prison, il a oublié. Pourquoi il a oublié? Parce qu'il c'est un Rahav. Rahav, ça veut dire c'est un Égyptien qui n'a aucune reconnaissance. Donc, dit le Chazon Ish, du fait que ce sont des gens comme cela, En ra'oui ha-ma'aseh hazeh rak mitoch yi'ush. Écoutez bien cette phrase. Cet acte-là est le résultat d'un yi'ush. Yi'ush, ça veut dire d'un désespoir. Va'miyu'ash ose kol ma she'yachol. Celui qui a perdu espoir, il fait tout ce qu'il peut. Av dvari ma'rechoki mikol to'elet. Même des choses qui sont éloignées de toute efficacité. Bravo. Aval en le boter la sot comme elle est. Celui qui a confiance en Dieu n'a pas le droit de faire cela. Ve en peu la zoom et peu l'autre à chova. Ça ne fait pas partie des choses que l'on doit faire en tant qu'ishtadlout. Yesh be maasezé ken zriyat avak al zohar aimuna bebitachon. C'est comme saupoudrer de poussière l'éclat de la confiance en Dieu. Voilà les mots toujours du magnifique du Chazon Ish. Vachare sheena chova hi asura. Du fait que ce n'est pas une obligation, c'est une interdiction. Ici, Rabotai, je voudrais vous donner un exemple très très fort. Et dans votre vie, c'est d'actualité, mais pas d'actualité. C'est tous les jours. C'est que tout simplement, lorsque devant vous, il y a un mur et qu'il faut le franchir. Donc vous allez faire de la hishtadlout, c'est-à-dire vous allez faire des démarches pour vous en sortir. Vous avez le droit de faire des démarches, c'est même votre devoir. Sauf qu'il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire, que nous n'avons pas le droit de faire, c'est faire des choses qui n'ont très 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 peu de chance ou pratiquement pas de chance d'aboutir. Parce que ces choses-là sont les œuvres de quelqu'un de désespéré, qui fait n'importe quoi dans son désespoir. Nous devons faire des démarches qui ont des chances d'aboutir, qui ont une logique, où il y a une logique. Mais faire des choses qui n'ont aucun sens, et dans ce cas, à propos de Yosef, il demande à un monsieur qui est profondément ingrat. C'est sa nature, il n'est pas capable d'être autrement. C'est un descendant de Ham, Mitzrayim, c'est des descendants de Ham. Ham, il sort de la Tevat noire, il pourrait quand même avoir un peu de reconnaissance pour son père, qui l'a sauvé de la Tor à Maboul. Il est dans la Teva, ils se sont occupés des animaux pendant un an. On voit quelle est la Messire Nefesh, combien son père a. Eh bien, la moindre des choses, c'est de respecter son père. Et son père se dénude dans son ivresse. Au lieu de le respecter, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'humilie un peu plus. Eh bien, ce Ham-là a un fils qui s'appelle Mitzrayim, et Mitzrayim n'ont aucune reconnaissance. Rien du tout. Donc leur demander un service, c'est un acte de désespoir. C'est pas un acte de hishtadlout. C'est pas un acte d'effort et de démarche logique. C'est un acte de désespoir. Et un acte de désespoir, c'est une interdiction de le faire. C'est pas simplement que c'est autorisé, facultatif. C'est une interdiction, c'est un signe de perte totale d'espoir. Si je fais n'importe quoi dans un cas où je suis dans une difficulté. Rabotai, même lorsqu'on est dans une difficulté, il faut, un, regarder comme Yosef les petits sourires de Dieu qui nous dit « je suis là ». Il nous fait quelques sourires. Et deuxièmement, ne pas faire des actes de désespoir qui n'ont plus de sens d'aboutir. Et c'est pour ça que Yosef s'est pris 2 ans de prison. Maintenant, Rabotai, comprenez-moi. Tous ces événements-là qui se sont passés, que je suis en train de commenter, évidemment, sont Ashri Hagever, Asher Sam, Hashem Iftacho. Yosef, c'est l'exemplarité de la confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il doit être celui qui est notre repère dans ce domaine. Donc dès qu'on fait qualifier quelque chose qui est de l'épaisseur d'un cheveu, une faute de l'épaisseur d'un cheveu, il est sanctionné, il se prend le din, la rigueur absolue. Pourquoi? Parce que justement Yosef, comme je l'ai dit au début du cours, il a décidé d'être l'homme du bitachon, d'avoir une confiance totale en Dieu. Maintenant lui, il a tellement confiance en Dieu que lorsqu'il va parler à son père et qu'il dit à son père « mes frères ont fait ci, mon frère ont fait ça », c'est qu'il assure que ses rêves vont se réaliser. Donc pour que ses rêves se réalisent, il est prêt à énormément de choses. Par exemple, eh bien Rabotai, écoutez bien, la paracha de Miketz est une paracha qui est troublante. Troublante, vraiment troublante, parce que Dans cette paracha, on voit un homme qui s'appelle Yosef, qui n'a pas vu son père depuis de longues années. Je calcule, il est roi d'Égypte à 30 ans. À 7 ans, pendant 7 ans, il y a les années d'abondance. Yaakov ne viendra qu'après 2 ans d'année d'isette. Ça fait combien d'années? 7 plus 2. Ça fait 9 ans. Est-ce qu'il n'a pas trouvé le moyen, en étant vice-roi d'Égypte, d'envoyer un messager dans sa famille pour rassurer son père et lui dire « Je suis là, je suis ceci, je suis cela. » Est-ce que c'est normal, lorsque ses frères arrivent, de les accuser d'espionnage? Est-ce que c'est normal de jeter en prison Shimon, son frère? Est-ce qu'il est normal de mettre l'angoisse à leur père en lui demandant d'amener Binyamin, auquel il tient comme la prunelle de ses yeux, et qu'il a peur de ne plus jamais revoir? Est-ce qu'il est normal de tromper ses frères en cachant la coupe dans le sac de Binyamin? Est-ce que c'est normal? Vous savez, les questions, je sais pas, j'ai l'impression que je peux y aller, si vous trouvez ça normal. Les questions que je pose, c'est Ramban qui les pose, Nachmanide. Et il répond, Nachmanide, il dit quelque chose suivante, il dit, il voulait faire réaliser ses rêves, il faut que ses rêves se réalisent. Il fallait que ses rêves se réalisent. C'est quoi ses rêves? Je vous rappelle, les 11 étoiles qui se prosternent et les 11 gerbes qui se prosternent. Alors là encore, les frères l'ont analysé de la façon suivante. Écoutez bien hein, comment ça s'est passé. Les frères, ils ont dit, ces rêves, ils ont fait à la façon Freud. Ils ont imaginé Yosef sur un canapé. Et Yosef qui dit, vous savez, vous allez vous prosterner devant moi. Vous imaginez Freud qui reçoit un client, qui lui dit, j'ai rêvé que le monde entier se prosternait devant moi. Je voyais tous les chefs d'État représentant le monde entier qui se prosternaient devant moi. Il dit quoi, monsieur? Vous avez un petit peu de problème de reconnaissance. Vous avez un certain complexe d'infériorité. Et vous avez des velléités absolues, des ambitions folles et une orgueil surdimensionné. N'est-ce pas ce que vous dites? C'est exactement ce qu'ils ont dit les frères. Yosef, c'est un orgueilleux. Et lorsqu'il rêve, il rêve tout simplement de ce à quoi il pense dans la journée. Ça, c'est leur analyse. Yaakov, il entend les rêves. Mais Yaakov, Shamar et Adava. Il a attendu que les choses se réalisent. Ça veut dire que lorsqu'il les a écoutés, il a dit non, non, c'est de la prophétie. C'est pas de l'orgueil, c'est de la prophétie. Prophétie ou orgueil? Voilà la question qui est posée au début de Vayeshev est répondu par les frères, c'est de l'orgueil. Et lorsque les frères, dans la semaine prochaine, vont découvrir qu'ils vont se prosterner devant Yosef et que ses rêves sont réalisés, ils comprennent qu'ils ont jugé très défavorablement leur frère en considérant que c'était de l'orgueil alors que c'était une prophétie. Ils avaient devant eux un tzaddik et ils ont cru que c'était un homme, un sale type qui voulait prendre le pouvoir et qui était tout simplement un homme d'une grande, grande, grande vanité, d'une grande arrogance. Voilà, comme ça, ils l'ont analysé. Alors, Rabotai, vous entendez bien ce qui se passe ici. Yosef se dit, il faut absolument que je fasse en sorte que mes frères nettoient totalement, totalement, totalement la faute qu'ils ont commise. Comment faire pour les faire totalement nettoyer? Il a trouvé le système. Quelle est l'origine de la faute? C'est la jalousie, n'est-ce pas? C'est qu'ils savent très bien que Yaakov, il a un faible pour Yosef, donc ils sont jaloux de leur frère. Donc qu'est-ce qu'il propose? Il se propose à lui-même, je vais amener Binyamin. Je vais récupérer Binyamin en leur faisant croire que Binyamin va rester ici, esclave, donc comme Yosef, son frère, et que eux vont rentrer tranquillement à la maison. Je vais voir leur réaction. S'ils sont toujours jaloux, ils sont si jaloux de Binyamin, puisque Binyamin, c'est le fils préféré de Yaakov, encore une fois, puisque c'est le fils de Rachel qui lui reste. Il fait ce test, et là, il voit que les frères, ils disent, n'est pas question. Et qui est celui qui refuse? C'est Yehuda. Et qui c'est Yehuda? C'est celui qui a proposé de le vendre, Yosef. Yehuda qui a vendu Yosef, c'est le même Yehuda qui dit, pas question que Binyamin soit esclave, c'est moi qui prendrai sa place. Et ce moment-là, lorsque, voilà, il se dit, voilà, ils ont fait teshuva parce qu'ils ont refait le même, c'était la même, les mêmes scénarios, avec juste un changement de nom. Et donc, comme Binyamin, ils ont su surmonter l'épreuve, je peux maintenant me révéler. Et là, Yosef se révèle. Yosef, il avait peur. Il faut savoir que les frères étaient très puissants. Ils auraient pu l'assassiner en 2 secondes. Ils connaissaient leur force, qu'ils ont tué toute la ville de Shrem. Et il était témoin qu'ils ont tué toute une ville à deux, à l'âge de 13 ans. Donc, vous imaginez, vous voyez, avec ces gens-là, dans une salle, vous dites, bon, franchement, ces gens-là, j'ai pas du tout envie de me mesurer à eux. Eh bien, il a eu le courage, c'est un courage, de se taire. Il pleurait très souvent, vous avez entendu dans la paracha, il pleurait très souvent en catimini. C'était très dur pour lui émotionnellement de faire ce qu'il faisait. Il ne le faisait pas par gaieté de cœur, pas pour se venger. Il l'a fait vraiment par volonté de vérifier que ses rêves se réalisent à 100%. Ses rêves, c'était 11 étoiles. Pour l'instant, le compte n'y était pas parce que Binyamin ne s'était pas prosterné. Et il savait que Dieu voulait qu'ils fassent le tikkun, la réparation de leur faute. Et il fallait que ce tikkun soit fait jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, il s'est révélé. Et à ce moment-là, il y a la dimension de Yosef qui apparaît dans toute sa splendeur. Un monsieur qui a une confiance absolue dans la parole d'Hachem. Donc il a eu un rêve, il faut que ce rêve se réalise jusqu'au bout. N'est-ce pas ? Il a confiance en Hachem que s'il est vendu dans une prison, c'est pour en sortir un jour. Si le Sarah Mashkim est venu, c'est pour l'en sortir. Et effectivement, c'est le Sarah Mashkim qui va le sortir de prison. Mais 2 ans plus tard, parce qu'il a eu l'erreur de lui demander. Il aurait dû se taire et ne pas lui demander. Il aurait dû laisser Hachem faire les choses. Des fois, il faut laisser Hachem faire les choses et ne pas aider Hachem. Il n'a pas toujours besoin de notre coup de main. Il se débrouille tout seul. D'accord ? C'est pas à nous toujours de tout faire. On a des fois des choses à faire, des choses. Alors, c'est pas facile. Il faudrait souvent poser la question à un rabbin. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que je fasse une ishtadlout dans telle situation ? Vous devrez poser la question à un rav. Ça vaut la peine ou pas ? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas bien ? On devrait pouvoir avoir ce genre de questions qu'on n'a jamais. Je vous rassure, jamais, pratiquement jamais. Pourquoi ? Parce que les gens pensent que lorsqu'il s'agit de faire des démarches, même si elles sont folles, elles n'ont aucune chance d'aboutir, on se prend des jours, des heures, des machins, et finalement, pour rien. On passe du temps pour rien. Pourquoi ? Parce qu'on est désespéré. C'est du désespoir, ce n'est pas un acte logique. Lorsque vous avez des doutes, demandez à quelqu'un qui n'est pas dans votre situation, qui n'est pas Nogéa, qui n'a pas votre problématique, demandez ce que franchement tu penses qu'il y a une chance d'aboutir. Il vous dira si oui ou non, il y a des chances. Si c'est le cas, faites-le. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Soyez, apprenez de cette paracha. Et Yosef, finalement, grâce à cela, il va avoir quelque chose d'incroyable. On va arriver à la fin de notre shiur en expliquant véritablement ce que nos rachamim nous disent. On appelle Yosef Kidesh Shem Shamaim Baseter. On a déjà cité cette mara dans Soda. Il a sanctifié le nom d'Hachem dans Seter. C'est quoi Seter ? Quelque chose discrétion. De caché, dans la discrétion. Et Yehuda, Kidesh Shem Shamaim Begalouy. Il a dévoilé d'une façon, il a sanctifié le nom d'Hachem d'une façon dévoilée. C'est quoi Seter ? C'est-à-dire quelqu'un très, très, on va dire, discret. Écoutez bien, si déjà le Harizal, il pouvait voir sur les visages des gens leur Averot et leur Mitzot, comment vous pourrez comprendre que les Shvatim, les frères de Yosef, n'aient pas eu un moment, un doute, en se disant, mais peut-être c'est Yosef, c'est quand même incroyable, mais réalisez quand même ce que ça veut dire. Ils voient un type qui les accuse d'espionnage, ils posent juste, ils se demandent, ils se renseignent. Dites-moi, ce monsieur, mais il vient d'où, c'est quoi son origine ? Ben, tout le monde va leur dire, mais c'était un esclave qui était en Égypte, un esclave, et qui était tout d'un coup devenu vice-roi. Comment il est devenu vice-roi ? Parce qu'il a dit qu'il a répondu les rêves. Enfin, en 2 minutes, vous trouvez la solution, non ? C'est tellement simple. C'est très simple. Faites une petite enquête. Qui c'est Yosef ou son origine ? Il est ivri. Non, on ne savait pas qu'il était ivri, mais en tout cas, il était un... Oui, non, il était ivri, c'est dit clairement dans la Torah. C'est un hébreu vendu qui a résisté. Enfin tous les indices sont là. Alors oui, il avait la barbe, pas la barbe. Enfin, franchement, on se moque de qui ? En plus, un tzadik, c'est difficile de se cacher. Il est plein il rayonne. Maintenant, Yosef, c'était un spécialiste du camouflage. Il a su se mettre Besseter, d'être caché, de rentrer tout. Tu passes à côté, tu dis, oulala, un vice-roi égyptien, oulala, quel truc, machin. Il est capable de faire une camouflage totale. C'est au fin fond de lui. Et c'est ce qui rend difficile, justement, de le découvrir et de voir qui il est vraiment. Depuis le début, ses frères, ils disent, mais c'est qui celui-là qui dit des médisances sur nous ? C'est un sale type, c'est un orgueilleux, c'est un arrogant. Oui, depuis toujours, on le juge mal parce qu'il a un visage très, qui passe partout, qui ne paraît pas particulièrement tzadik. Eh bien, justement, les frères, là, ils sont obligés dans Vaïgash, dans la paracha prochaine, de découvrir qui il est. Pour l'instant, Yosef, il se cache. Il se cache avec beaucoup d'efficacité. Qu'est-ce que c'est, ce Yosef qui se cache et qui est là dans... Enfin, c'est qu'en fait, le juif de l'exil, très franchement, il a besoin des fois d'être capable de vivre en Égypte, de gérer les affaires économiques et de rester fidèle à lui-même et de rester ce qu'il est. Et pour cela, il y a le bitachon, c'est un mitzvah qu'il faut étudier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ne pas se laisser entraîner par des démarches folles ou malhonnêtes, qui, même si elles aboutissent, les démarches malhonnêtes, finiront très franchement un jour à se faire sanctionner, comme c'est en train de se faire en ce moment, depuis que Israël est rentré dans l'OCDE. On sait que les banques israéliennes collaborent, que les polices commencent de plus en plus à collaborer, et que tous ceux qui ont voulu profiter de certaines choses malhonnêtes sont en train de payer. Parce que, finalement, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu veux gagner de l'argent, très bien. Tu veux nourrir ta famille, pas de problème. Mais attention, sois comme Yosef. Il y a des règles à respecter. Et surtout, apprends que ne fais pas des démarches qui soient folles, soit malhonnêtes. Ça ne donne rien. Ou plutôt, si ça donne quelque chose sur place, ça te coûtera très cher plus tard. Mais bon, ça, il faut avoir une notion de vitalité. C'est la seule façon de passer en Égypte et de se retrouver avec Yehuda et de finalement de retrouver l'unité du peuple juif. J'ai expliqué la semaine dernière qu'il y avait deux malchoutes, deux types de royauté dans le peuple juif, Yesod et Malchout. Dans la paracha de Miketz, Yosef fait avancer l'histoire, mais en se cachant, sans qu'il soit visible. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis finalement, tout d'un coup, la vérité éclate à leurs yeux. Ils se disent finalement, toute cette histoire de Yosef, c'était pour le bien, tout c'était pour le bien, alors que tout paraissait terrible. Apprenez une chose, je voudrais terminer là-dessus. Regardez comment Hachem fait les choses. Yosef, il a été vendu. A priori, c'est une catastrophe. Et finalement, de là, viendra la Géoula. Moshe, Pharaon demande de jeter tous les premiers les enfants de Juifs dans le Nil. Grâce à ça, sa fille reçoit Moshe. Il l'éduque sur ses propres genoux. Chaque fois, Haman, il pense s'attaquer à Mordechai. Et finalement, ça se retourne contre lui. La fin des temps à Botaï, c'est le jour où tous ces processus très très bien huilés par tous nos ennemis qui pensaient par tous ces stratagèmes nous mettre à terre exploseront devant leur nez et ils découvriront que finalement ce sont eux qui auront été les outils, les instruments que Hachem a utilisés pour amener la Géoula finale. C'est-à-dire que le mal va exploser. Cette explosion va amener le monde vers finalement le but final. Et eux pensaient nous enterrer. Et eux, finalement, ce sont ceux qui vont nous amener vers cette finalité heureuse. Et ça, c'est ce que dit le Ramchal dans son livre Da'at Vunot, que c'est vrai au niveau de l'histoire et c'est vrai au niveau de l'intériorité de l'être humain. C'est qu'à fort et à mesure que les gens se lancent dans le mal, il y a un moment où le mal s'autodétruit parce qu'il est tellement arrivé à un niveau tellement, tellement lointain que le mal a besoin toujours d'une étincelle de vérité pour exister. Le jour où c'est kulo chayav, c'est qu'il n'y a plus rien de bon, ben finalement les gens se disent, il faut retrouver un autre système, il y a quelque chose qu'il faut revoir, les choses de l'ombre. Comme on est dans une période un peu où les gens se posent des questions, un peu trouble, c'est moins qu'on puisse dire, il faut savoir que mitorze de cette épreuve difficile, Misham Nivasha, il va y avoir un Bezrat Hashem, un grand or qui va sortir, parce que c'est Hanouka, que ça arrive, et que Bezrat Hashem devant de lumière, des feux de Hanouka, mais pas d'autres feux, s'il vous plaît. Voilà. Rabbi Hanouka, 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 Rabbi Hanouka